avait subi 2 défaites pour 1 seule victoire. Et bien là, il a survolé cette rencontre face à un qualifié, l'Ouzbek Denis Istomin, 203e dans la hiérarchie, 34 ans. Bah, c'est 5 ans de moins tout de même que Roger Federer, qui a été emballant. Alors c'est vrai que l'opposition n'était pas extraordinaire, mais on l'a vu vraiment survoler, accélérer, multiplier les amortis. Il s'impose donc en 1h35, 6-2, 6-4, 6-3. Le Suisse, il est bien de retour et ça enchante pas mal de monde. C'est bien normal, on attend le jeu Wilfried Tsonga maintenant.
C'est bien noté. Merci Olivier Prancet. La fin du journal. Très bonne fin d'après-midi à notre écoute.
7 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages.
Radio G. 101.5 FM.
Cela fait 100 ans que les médias radio existent. Durant un siècle, de nombreuses émissions ont révélé de grands talents de la chanson.
Cette année, on vous propose de découvrir de nouveaux artistes dans l'émission Radiovision.
Ils se sont inscrits, vous avez écouté et voté pour leur chanson.
Écoutez les résultats samedi 5 juin à 21h sur cette antenne.
Ou sur radiovision.fr pour la grande soirée Radiovision 2021.
Envie de radio ? Devenez animateur ou animatrice de Radio G.
Si l'expérience du micro et du média radiophonique vous passionne ou vous intéresse, vous avez jusqu'au 15 juin 2021 pour proposer votre propre émission à Radio G.
Si votre projet est retenu, il sera diffusé pendant toute une saison. Alors, n'attendez plus.
Et rendez-vous sur radio-g.fr pour plus d'informations.
Écoutez Radio Campus Angers et Radio G. Bienvenue dans cette émission spéciale en direct sur nos 2 antennes, l'oreille curieuse et le pédalo, la première de la saison pour le pédalo. Nos 2 quotidiennes se retrouvent à l'occasion des 100 ans de la radio en France. Jusqu'à dimanche, toutes vos radios, qu'elles soient locales, nationales, célèbrent la radiophonie. Toute la programmation est en ligne sur le site fêtedelaradio.com. Toute la programmation, sauf nous sans doute. On n'a pas envoyé les infos. Salut Thibaut.
Salut Anne-Li.
Bienvenue dans le studio de Radio G.
Mais merci, très content de revenir là après de longs mois sans en avoir l'occasion.
Tu es mon homologue à Radio Campus. Je suis ravie de faire cette émission avec toi. Il y aura d'autres émissions qui vont se retrouver entre Radio Campus Angers et Radio G. Le Funkadelica et le coureur de funk, par exemple, ainsi que Bamboo Station.
On dit
Station.
C'est ça, tout à fait.
Et Planète Reggae. On a essayé de trouver un proverbe ou une citation, car nous ouvrons habituellement cette émission sur ce genre de choses. Et il y a peu de choses avec la radio. Le poète est parti, la radio a pris sa place. C'est de Naguil Marfour, mais j'ai encore très mal écrit son nom, donc faites vos recherches. Quant à nous, ce soir, on vous a préparé un super programme. Les auditeurs et auditrices de Campus découvriront le Croc Philo, la chronique où Émilie nous parle de philosophie. Et mon oreillette me dit qu'elle a préparé une spéciale pour les 100 ans de la radio. On la retrouve en deuxième partie d'émission. Et avant cela, nous vous proposons des balades, de la musique, des sensations. C'est le Saveur Jazz Festival qui est avec nous ce soir. Thibaut, je te laisse faire les présentations.
Et oui, effectivement, c'est une bonne nouvelle annonciatrice, un peu comme ce temps aujourd'hui de l'été, puisque si l'édition 2020 avait été annulée, à l'instar de nombreux autres événements, on pourra retrouver du 8 au 11 juillet la 12e édition du Saveur Jazz Festival, qui se déroule à la fois à Segré en Anjou Bleu, mais également ailleurs en Anjou Bleu. On aura l'occasion d'en rediscuter, et une programmation voilà, toujours entre quelques têtes d'affiche et des propositions plus intimistes. Et nous sommes donc avec Léonie Rondeau, coordonnatrice locale du festival.
Bonsoir. Bonjour.
Alors tu nous disais quelques instants avant qu'on commence que tu étais arrivé récemment à ce poste au mois de mars, mais que tu connaissais déjà le territoire du Segréen et le festival.
Oui, effectivement, avec toutes les incertitudes qu'il y a eu, mon arrivée était un petit peu tardive, mais c'est un territoire que j'affectionne particulièrement. Je parle du territoire de l'Anjou Bleu, puisque j'ai eu l'occasion, dans d'autres missions et une autre vie, de travailler déjà sur ce territoire-là, et de découvrir aussi, en tant que bénévole et spectatrice, le Saveur Jazz Festival.
Et en bénévolat, ça faisait longtemps que tu y as assisté? Tu as fait déjà des missions un peu variées?
Eh bien, j'ai découvert la première édition. Enfin, j'ai participé, en tout cas à mon niveau, à élaborer les premières éditions, effectivement. Et puis après, je venais toujours en curieuse. Moi, en tant que bénévole, ces dernières éditions. Mais voilà, c'est un festival qui me tient à cœur aussi, puisque c'est quand même un événement d'ampleur aussi sur ce territoire-là qui, malgré les nombreuses associations qui sont en présence, n'a pas toujours forcément moins doté, en tout cas en offre culturelle et artistique tout au long de l'année. Donc c'est une vraie chance aussi pour le territoire et ses habitants d'avoir des têtes d'affiche comme tu le disais, mais aussi une programmation un peu plus fine avec des découvertes ou des mises en valeur aussi de groupes régionaux qui en valent la peine.
Et tu es arrivé dans un moment qui doit être un peu particulier, j'imagine, pour le festival et son équipe, après une année d'annulation et puis tout le reste de l'année qui a été, on le sait, pour les organisatrices d'événements quand même assez remplis d'incertitudes. J'imagine que là, tu arrives à un moment où l'équipe est heureuse d'arriver à cette nouvelle proposition.
Bah oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'incertitudes jusqu'à encore très peu de temps, dès janvier, en tout cas, l'équipe en place, puisqu'il y a le festival Saveur Jazz appartient à un réseau qui organise une quinzaine de festivals tous les ans. Donc il y a quand même une équipe qui travaille toute l'année sur les événements. Elle s'était dit, bon, en tout cas, nous, on refuse une deuxième année blanche et on prend les devants et on commence, nous, déjà à réfléchir à la programmation, à l'événement. Si effectivement, à l'issue, on est contraint d'annuler, bon, bah tant pis. Mais en tout cas, nous, on fait tout comme si l'événement pourra se tenir en juillet. Donc c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui explique aussi que je suis arrivée un petit peu à la fin, mais avec forcément plein d'envie, plein de frustrations à combler depuis un an et demi. Là, je parle presque autant en tant que spectatrice, même si, bon, j'aurais peut-être pas l'occasion de voir beaucoup de concerts pendant le Saveur Jazz, mais voilà, ça me semblait aussi important. Et puis, on le voit, le retour du public, des bénévoles qui sont vraiment heureux de retrouver l'événement et de pouvoir aussi de sortir de chez eux. Parce qu'on a beaucoup parlé des habitants des grandes villes qui étaient en manque d'événements, de sorties, de propositions. Mais dans les campagnes aussi, il y a une frustration accumulée et un vrai plaisir de retrouver les artistes sur scène et puis l'ambiance aussi des événements qui sont assez particulières sur des événements culturels.
Et on aura l'occasion de revenir entre autres sur l'ambiance. Est-ce que toi tu peux nous raconter un peu plus en détail ce que c'est ton rôle de coordinatrice et ce que tu vas être amenée à faire en amont du festival et pendant le festival?
Alors la coordination du festival, c'est être aussi un peu touche-à-tout. Il y a donc tout un travail, j'en parlais, avec les bénévoles. Il faut savoir que sur le festival, on a une équipe de 100-120 bénévoles qui, bien sûr, on le dit tout le temps, mais je tiens à le préciser, sans eux, le festival ne pourrait pas avoir lieu. Donc mon travail, c'est de les accompagner, de les rassurer aussi, parce qu'on a forcément quelques interrogations sur, est-ce que on va devoir faire respecter certaines règles, quelles posture on doit avoir, etc. Inquiétudes qui ont été rapidement rassurées et qui sont closes maintenant. Mais donc un gros travail autour un gros travail de remobilisation de l'équipe bénévole. Et puis après, il y a toute la partie, on va dire, logistique, puisqu'on arrive sur un site qui appartient à un lycée. Donc c'est un magnifique lieu, mais qui n'est pas prévu pour accueillir une dizaine de concerts par jour quasiment. Donc ma partie en collaboration, forcément, ce n'est pas moi qui gère toute cette partie-là, mais avec le directeur technique, c'est de repenser l'aménagement du site et puis de prévoir tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir le public. Donc au Saveur Jazz Festival, il y a effectivement deux scènes sur le site, mais il y a aussi
toute une partie village où on retrouve des exposants, une partie restauration, bar, qui normalement auront bien lieu. Et puis après, mon rôle, c'est aussi de faire le lien avec tous les partenaires locaux et d'organiser le programme. C'est pas un programme à part, au contraire, c'est vraiment, ça fait vraiment partie intégrante de l'identité du festival. Ce sont les saveurs jazz en balade qui permettent au festival aussi d'aller dans les petites communes rurales, parce que je le disais, on est sur un territoire quand même rural, et c'est très bien. Mais voilà, des petites communes qui n'ont pas forcément l'habitude d'organiser des événements ou de voir se dérouler des événements. Sur leur place de village, dans les salles des fêtes, etc. Donc voilà, toute cette partie-là, en partenariat avec l'Office de tourisme de l'Anjou Bleu, on l'assure vraiment main dans la main, puisque c'est aussi l'occasion de mettre en valeur les richesses du territoire.
On va revenir sur ce lien entre musique, territoire, les saveurs aussi, les sensations, oui. Mais on a choisi plusieurs titres dans la programmation. Et le premier qu'on va écouter est un titre de David Lynx, alors réalisé avec d'autres artistes. Le titre, c'est Here Be Changes Made. Merci pour votre tolérance. Et David Lynx, on va le retrouver le premier soir, le jeudi 8 juillet, à 21h30. Et juste avant, on aura en première partie Cam Mélien. On écoute ce titre.
Here be changes made, a sudden swirl, a wider range, a song of lives intertwining. I want to see you when the day turns red, the horizon's all aflame on fire, almond brown, your eyes speak the said, tears that taste of honey. I need to walk alone. The sunlit shore will bring me to my knees. Pray, here be changes made. I find what lies ahead. Love's a moment in the sea of fate. Bathing nightly, you drip drops of gold. Lightning strikes a game of old. And I put on my Sunday shoes and run. Put on my Sunday shoes and run.
C'était David Lynx, un artiste qui a eu une victoire du jazz en 2019 et que surtout vous pourrez retrouver au Saveur Jazz Festival. Le festival est de retour du 8 au 11 juillet au parc du Bourg-Chevreau,
ouais. Mais alors pour cette soirée-là, on sera au Cargo,
ah qui oui, est
la salle culturelle de ce grand Anjou Bleu.
Donc il y a plusieurs lieux. Merci beaucoup Léonie, donc notre invitée, coordinatrice du Saveur Jazz Festival. Et cette émission est toujours et sur Radio Campus Angers et sur Radio G avec Thibaut.
Et oui, alors pour revenir sur le Saveur Jazz Festival, donc tu avais évoqué, Léonie, il y a quelques instants, l'ambiance qu'on pouvait trouver dans le festival. Tu as également parlé des réaménagements du parc nécessaires, avec évidemment ce qu'inclut une jauge assise. Comment on essaie de conserver justement cette ambiance et cet esprit de festival en devant reconfigurer la manière dont les spectateurs vont vivre l'événement?
Alors comment, malheureusement il n'existe pas de mode d'emploi, ça n'a pas été fait par le ministère de la Culture, donc voilà, là on fait des remue-ménages entre la technique, avec la sous-préfecture, avec les bénévoles aussi, pour essayer de respecter un maximum les protocoles sanitaires. Bien sûr, ça l'a été annoncé depuis déjà quelques semaines, les jauges sont réduites pour cette année, pour cette saison de festival. Pour ce qui nous concerne, nous, à Segré, au Saveur Jazz Festival, à Segré en Anjou Bleu, on pourra accueillir, sauf si effectivement il y a des nouvelles directives d'ici là, 600 personnes sur l'espace payant. Pour la partie village, rien ne change réellement. Bien sûr que si on atteint les 1000 personnes, puisque le festival ne souhaite pas aller au-delà de 1000 personnes accueillies, parce que le site, même si c'est un très beau site, en extérieur, en pleine verdure, est quand même limité. Donc on s'est dit, pour ne pas aussi avoir, c'était pas la raison première, mais il y a aussi cette histoire de passe sanitaire, en tout cas on sera sous le coup des 1000 personnes, donc effectivement pour les personnes qui détiennent un billet, il n'y aura pas de difficulté pour entrer sur le site. Après, effectivement, je l'espère, et en même temps ça me ferait vraiment de la peine de refuser des spectateurs, mais à un moment donné on va devoir aussi respecter cette jauge qui n'était pas le cas avant. On pouvait accueillir un petit peu à l'infini, entre guillemets. On prépare, on essaye d'anticiper, de suranticiper, de mettre en place des choses qu'on défait. Enfin bon, on tâtonne un peu aussi, mais en tout cas c'est vraiment la sécurité du public qui prime, et puis la satisfaction quand même du spectateur. Donc voilà, il y aura quelques règles effectivement à respecter, mais elles seront peut-être peut-être un peu différentes de ce qu'on sait aujourd'hui, donc je préfère pas m'étaler trop sur ce point-là.
Ouais. Et j'ai l'impression qu'une des chances du festival aussi, c'est d'être déjà très lié à l'extérieur,
c'est ça,
à l'environnement autour, quoi.
Oui, voilà, on était déjà dans un dispositif où les gens pouvaient déambuler, s'asseoir où ils voulaient, etc. Mais on avait déjà, autant sur la scène de la Marmite, qui est la scène offerte du festival, donc accessible par toutes et tous, que sur la scène payante, on avait déjà un dispositif de chaises, de places assises. Donc effectivement, ça va pas bouleverser les fidèles du festival.
Et justement, cette scène de la Marmite, donc tu viens de le dire, elle est en accès libre. C'est toujours important dans l'esprit du festival de proposer une partie qui soit ouverte à tous et le plus accessible.
Oui, complètement. Ça fait vraiment partie de la philosophie du festival, d'avoir aussi des concerts accessibles, où les gens qui ne sont pas forcément très familiers avec le jazz viennent aussi par curiosité. C'est le cas avec les Saveurs Jazz en balade aussi, qui sont des rendez-vous gratuits, enfin offerts. Et puis sur la scène de la Marmite également. Oui, c'est une vraie volonté de l'événement, d'offrir quotidiennement entre 4 et 6 concerts pour profiter du village, comme je le disais, et puis pour découvrir aussi des groupes, puisque c'est vrai que derrière l'étiquette jazz, on peut avoir des a priori, on peut se dire que c'est pas une musique qui est pour nous, mais là j'invite les gens à aller vraiment sur le site internet du festival ou sur la page Facebook pour découvrir la programmation dans sa totalité et de faire le constat qu'en fait il y a 1000 jazz, quoi. Il y a autant d'interprétations de ce style que de groupes presque, donc c'est du jazz, et encore plus cette année où on s'est resserré, la programmation s'est resserrée sur le jazz français aussi, mais c'est infini, quoi. Il y en aura pour tout le monde.
C'est vrai qu'il y a un seul mot, entre guillemets, jazz, mais la diversité des programmations, elle est importante. On la voit avec le nom des artistes qui viennent. Là, dans cette scène offerte avec la Marmite, il y a 9 concerts qu'on peut découvrir. Il y a aussi des choses locales. Je pense à Titi Robin, qui, pareil, n'est pas uniquement ou directement dans un jazz qu'on va imaginer, jazz de club. Oui. Et puis peut-être... Est-ce que tu peux nous parler un peu de la programmation? Alors, dans les grandes lignes, mais c'est vrai que là, on a entendu David Links tout à l'heure avec quelque chose de très vocal, de très calme. Il y a aussi Amadou et Mariam, il y a Avishai Cohen. Déjà, avec ces trois noms-là, c'est très divers.
Oui, voilà, c'est sur cette scène, on va dire, payante. Et effectivement, si on parle un petit peu des têtes d'affiche, il y a aussi Alain Manoukian qui invite une Robin McQuell, qui est une chanteuse aussi très reconnue dans le milieu du jazz. Mais on voit bien à travers, rien que par le biais des têtes d'affiche, que le jazz il s'exprime de vraiment différentes manières. Pour David Links, je tiens juste à préciser qu'il y avait aussi tout un projet d'année avec l'école de musique de l'Ange Bleu. On parlait de la gratuité qui faisait partie de la philosophie du festival. Les actions aussi tout au long de l'année, en font partie, et des actions d'éducation artistique, donc avec l'école de musique, mais aussi avec certains collèges ou lycées. Et il devait y avoir un partage de scène entre l'Orchestre des Mondes de l'école de musique et David Links ce soir-là. Malheureusement, le Covid nous a rattrapés. Donc, on ne retrouvera que, entre guillemets, David Links. Mais voilà, effectivement, sur cette scène payante, on va voyager à travers les styles, à travers les ambiances et les univers, un petit peu comme sur la scène de la Marmite, puisque là on va avoir une programmation, tu le disais, régionale, mais pas que, mais en tout cas de groupes émergents et qui ne bénéficient peut-être pas de la même du même traitement médiatique que pour les têtes d'affiche, mais qui valent vraiment le détour. Je pense à Célène Saint-Aimé, par exemple, qui est une toute jeune musicienne contrebassiste qui mêle aussi la voix et la poésie. Elle nous embarque vraiment là dans son univers et dans un... Enfin, c'est magnifique. Moi, c'est pas mon coup de cœur. J'ai pas encore eu tout le temps d'éplucher la programmation. Mais voilà, je...
C'est une recommandation chaleureuse.
Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qu'il faut suivre, parce qu'on en entendra parler, ouais.
Pour se rendre, pour voir les concerts, alors sur la partie payante, bien évidemment, faut réserver, c'est le mieux. Le plus tôt sera le mieux, d'ailleurs, comme les places sont un peu contraintes. Pour la scène de la Marmite, il suffit de venir le jour J sur place, où il y a quand même un système de réservation avec des mesures Covid, etc.
A priori, on ne va pas partir sur un système de réservation qui serait qui risquerait de nous faire refuser aussi des personnes aux entrées, puisque la programmation, elle s'étale quand même dans la durée. On a au niveau de la scène gratuite, ça va commencer pour certains jours dès 17h et se terminer à minuit. Donc voilà, en alternance avec la scène payante. Donc ça serait un risque, voilà, aussi de procéder par réservation. Non, ce qu'on va faire, ce sera un comptage très précis des entrées et des sorties en temps réel. Voilà.
Donc on peut venir à un concert à l'improviste, et ça c'est quand même une bonne nouvelle.
Oui, pour la partie offerte, oui. Pour la partie payante, il y avait sur les éditions précédentes une billetterie sur place. Cette année, effectivement, si on atteint avant l'ouverture des portes la jauge qui nous est imposée, malheureusement, on ne sera pas en mesure de répondre aux spectateurs qui se risqueraient de venir sans avoir réservé leur billet. Donc effectivement, il faut jouer la carte de la sécurité et il vaut mieux réserver sa place pour accéder à la scène payante. Ouais.
Et est-ce que tu peux nous redire peut-être un mot de ce qu'on va retrouver pendant les Saveurs Jazz en balade? Alors ça a été évoqué, donc l'idée de faire rayonner un peu le festival dans d'autres lieux, ça sera en ex-libre également. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'on va pouvoir trouver et où?
Oui, alors en fait, les Saveurs Jazz en balade, c'est un programme je l'ai dit tout à l'heure, qui est vraiment pensé et organisé avec l'Office de Tourisme de l'Anjou Bleu. C'est-à-dire que eux, enfin elles, puisque c'est une équipe exclusivement féminine, arrivent avec ce qu'elles connaissent aussi du territoire et leur savoir et leur savoir-faire, et elles piochent ce qu'il faut montrer et ce qu'il faut faire découvrir aux gens, voilà, des petites pépites. Donc ça va être c'est très variable d'un jour à l'autre, hein. Ça peut être une visite commentée d'un village, ça peut être un site touristique, comme je pense notamment au parc de la Burelière, qui en temps normal c'est un parc à bout, donc c'est un parc où des filets sont tendus entre les arbres et on évolue dans ces filets là et là notre envie, si c'est possible, c'est d'installer une petite partie du public dans ses filets et de pouvoir écouter le concert qui se déroulera en bas, qui sera juste un concert vraiment propice aussi à la détente avec Hervé Sambre, qui est un super guitariste. Voilà, donc il y a des rendez-vous comme ça. On va aussi aller plus plus à l'ouest, là, à Carbet, où on va aussi découvrir un couple de passionnés qui cultivent depuis quelques... C'est assez récent, hein, depuis quelques années quand même, des herbes et des plantes dans leur jardin et qui le transforment en huile essentielle. Alors, on a effectivement pour mission aussi de mettre en valeur les saveurs. Donc là, cette année, on est sur quelque chose de saveur au sens très large, puisqu'on était quand même aussi...
Goûter, c'est compliqué.
Voilà, un petit peu freiné par les dégustations et la manipulation d'aliments. Donc voilà, on s'est dit, bon, mais c'est pas grave. En fait, les saveurs, elles sont partout, si on cherche un petit peu. Il y aura, en fait, les saveurs jazz en balade, c'est 6 rendez-vous en 4 jours. Donc, un le jeudi, un le vendredi, et puis 2 le samedi et les dimanches. Tous les rendez-vous sont en matinée. À 11h30 pour le concert, pardon, et à 10h pour le rendez-vous visite, surprise, découverte avec l'Office de tourisme de l'Anjou Bleu.
Oui. Et donc c'est pareil, il suffit de se rendre sur place le jour J.
Alors pour les visites, on va parfois dans des petits lieux qui sont... C'est aussi l'ambition, hein, de ces rendez-vous-là, c'est qu'on se retrouve aussi dans des lieux intimistes, dans une atmosphère un peu cocon. Donc non, moi je conseille, enfin c'est même préférable, ouais, de réserver sa place pour les visites organisées par l'Office de tourisme de l'Anjou Bleu. Pour la partie concert, là encore, on ne sera que sur de l'extérieur. Donc, normalement, en mesure d'accueillir tout le monde.
Un large public.
Un large public.
On souhaite. Thibaut, est-ce que tu as d'autres questions pour notre invité?
Bien, éventuellement, peut-être juste si vous avez un mot à dire, peut-être sur l'affiche du festival, qui est très, très colorée, oui, qui a été faite par Aliénor Ouvrard, donc une artiste locale. De ce qu'on a pu entendre à travers cette interview, je crois que l'idée, voilà, c'était d'avoir quelque chose qui soit assez représentatif de justement l'esprit et l'ambiance du festival.
Oui, voilà, on voit sur l'affiche un personnage central qui s'amuse. Donc on espère, voilà, c'est cette invitation-là aussi à continuer et à proposer des temps festifs. Bon, malheureusement, c'est pas pour cette année qu'on va pouvoir se déhancher, mais en tout cas, effectivement, cette affiche, elle résume bien l'ambiance du festival, à savoir un festival en extérieur où on retrouve, on n'en a pas vraiment parlé, mais aussi des saveurs avec justement cette petite cloche ou le verre de vin à consommer avec modération, bien sûr. Mais voilà, c'est ça, c'est quelque chose de... C'est une affiche qui est très colorée, très simple et qui nous raconte quand même quelque chose. Donc c'est un petit peu l'ambition aussi du festival, d'être simple, de procurer du bonheur aux spectateurs et puis pourquoi pas de se délecter aussi de quelques spécialités locales.
C'est un très beau programme. Je redonne toutes les infos donc, pour ce Saveur Jazz Festival, la 12e édition. C'est du 8 au 11 juillet à Segré en Anjou Bleu et aux alentours, principalement au parc du Bourg Chevreau, sauf la première soirée au Cargo. Toutes les infos sont en ligne sur le saveurjazzfestival.com. Réservez si vous avez envie de voir, ouais, les têtes d'affiche. Tentez votre chance pour les scènes offertes, ça devrait aller.
Oui.
Merci beaucoup, Léonie.
Merci de votre invitation.
Et on écoute un autre extrait de la programmation. Alors, c'est un des derniers titres de Amadou et Mariam, leur dernier, en fait. Et c'est un featuring, comme on dit, avec Sophie Tucker. Ça s'appelle Mon Chéri.
Eternidade começa, o tempo dispara. Quando o ritmo cessa, tudo acontece, tudo se esquece. Tudo acontece, tudo se esquece. Tempo só existe. Tudo acontece, tudo se esquece. Tudo acontece, tudo se esquece. Tempo só existe. Quando o ritmo para, te desafio a ficar. Quando o ritmo para, minha alma.
quando o ritmo cessar.
Radio G 101.5 FM dans l'oreille curieuse, mais également
l'horaire
curieux, voilà, c'est 18h42 effectivement. Également de retour et bien dans le pédalo sur le 103 FM puisque nos deux quotidiennes d'infos s'associent pour les 100 ans de la radio et les 40 ans de la libération des ondes également, on peut le dire, qui nous concerne peut-être un peu plus même.
Tout ça est une grande histoire. En tout cas, on l'a fait cette semaine.
Et Anne-Lie, il me semble que tu as une chroniqueuse à nous présenter pour cette fin d'émission.
Oui, Émilie revient toutes les deux semaines avec son croque-philo pour nous parler de philosophie, bien sûr. Émilie, est-ce que tu nous entends bien ?
Oui, bonjour Anne-Lie, bonjour à tous, à vous en studio. Vous m'entendez également ?
On t'entend bien, oui. Que ce soit sur Radio G, Radio Campus, on est ravis.
Voilà, alors bonjour à vous en studio, mais aussi à vous auditeurs de Radio G et de Radio Campus aujourd'hui. Alors 100 ans de radio, chronique philosophique sur les 100 ans de la radio. J'aurais pu choisir de disserter sur le temps, notion existentielle fondamentale en philosophie, et au programme du bac, mais depuis les premières émissions de radio, depuis les premiers enregistrements, jusqu'à la place que la philosophie peut avoir sur les ondes aujourd'hui, je préfère cheminer un petit peu dans le temps, justement, et avec le temps, pour rendre hommage à la philosophie dans son histoire, en lien avec le médium qu'est la radio. C'est-à-dire passer poser quelques repères de façon à voir quel lien, quelle relation jusqu'à aujourd'hui la philosophie a pu entretenir avec la radio. Alors évidemment, on ne peut pas poser et parler des liens de la philosophie et de la radio sans parler un minimum de la technique radiophonique. Pourquoi ? J'imagine que vous le savez, ou du moins que vous vous en doutez, les techniques radiophoniques n'ont pas de suite été optimales et les émissions telles que on les connaît aujourd'hui dans nos radios préférées ne sont pas les formats des débuts de la radio. Et effectivement, dans ce cadre technique balbutiant dans les années 20, 1920, il n'était pas question d'émissions thématiques et diversifiées comme aujourd'hui. Les premières traces qu'on peut garder et entendre de la philosophie à la radio passent par des entretiens relativement courts et à la qualité technique très médiocre. Et en cherchant pour vous, aujourd'hui, les premières voix de philosophes importantes dans l'histoire de la philosophie. J'ai trouvé ce son que vous connaissez d'ailleurs peut-être, qui est le premier véritable son, et le seul en tout cas, de la voix de Bergson. Alors Bergson, c'est les années 20. C'est les années 20, il est en train d'écrire, il a écrit dans les années 20, Le Rire, son essai sur le rire, et il travaille dans ces années-là, ces années 20, ces années 30, années post-première guerre, sur la reconstruction, la notion de paix et d'espoir. Et le rire, bien sûr, s'inscrit tout à fait dans ce renouveau et ce besoin de reconstruction. Une façon de vous dire et de vous montrer par là que la philosophie n'échappe pas, comme l'histoire de la technique, au réel historique et à ce qui se passe dans la vie des hommes de l'époque. Et au cours de ces années 20, les émissions de radio se spécialisent et on commence à voir aussi des personnalités intellectuelles comme les philosophes qui peuvent être interrogées, interviewées. Et pour vous donner un petit aperçu d'où nous en étions en 1936, je vous propose d'écouter ce petit son qui est le seul enregistrement qu'on a gardé de la voix de Bergson. C'était en 1936 et il s'agit d'un extrait sonore qui est juste un essai technique qui avait été fait avant l'entretien lui-même et la radio n'a gardé que des archives de cet extrait-là et n'a pas gardé l'archive de l'entretien lui-même, malheureusement. Vous allez voir, il donne une petite idée de la qualité technique, mais aussi quelque chose des mots de Bergson incarné.
Nous nous sommes transportés le 3 juin 1936 à 3h30 chez le philosophe Henri Bergson avec un simple appareil enregistreur portatif. Vous voulez dire une ou deux fois ?
Quel est l'objet de l'art ? Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, et si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes.
Alors, vous l'entendez, les crépitements charmants aujourd'hui, évidemment, sont bien éloignés des qualités qu'on est capable aujourd'hui de mettre en forme techniquement à la radio. Mais on a aussi la voix elle-même du philosophe qui est datée et qui est profondément ancrée dans la réflexion qu'il a, qui se livre de façon un peu massive hein, par une diction et un rythme de parole qui n'est plus du tout, bien sûr, celui d'aujourd'hui. On peut imaginer davantage, là, le vieux philosophe, le vieux professeur dans un amphi, un petit peu hors du temps. Je vous disais, les années 20 et les années 30 sont des années d'après-guerre, d'après-première guerre, de reconstruction, d'espoir, de renaissance. Et ça a été aussi une refondation de la philosophie. Et pour vous dire par là que la philosophie ne s'est pas échappée de l'histoire, mais elle y a aussi participé. Et on retrouve en ce sens une autre époque importante et essentielle dans l'histoire de la philosophie, mais aussi dans l'histoire de la radio, ce sont les années 40. Les années 40, et fin des années 40, après la Seconde Guerre mondiale. On assiste dans l'histoire de la philosophie à une nouvelle donne qui est l'évolution du courant existentialiste porté par Sartre, notamment comme figure de proue, et la figure qui a d'ailleurs été la plus médiatisée, et ce, dès les années 50, puis jusqu'aux années 70, avec aussi l'avènement de la télévision. Sartre et les philosophes des années 50, mais aussi des années 70 ensuite, avec le courant du structuralisme, sont des philosophes qui ont évolué avec leur temps et les techniques audiovisuelle de l'époque. Donc à la radio, on a plus d'enregistrements de ces personnes et de ces philosophes, Sartre, de Beauvoir, Gilles Deleuze, et parce qu'on a gardé justement nombreuses traces de ces personnalités venues dans les médias, interrogées sur leur travail, mais aussi interrogées comme incarnant une pensée dans l'histoire et prenant à bras le corps les faits historiques et l'engagement politique, et se retrouvant ainsi invité à parler, à commenter l'actualité. Donc entre les années 30 et ces balbutiements là techniques et les années 40 ou 50, on a un monde qui est celui aussi d'une philosophie qui vient parler de politique d'éducation notamment. Et le deuxième son que j'aimerais vous faire écouter, c'est le philosophe Jean Kelevitch, qui, à l'occasion d'un dialogue sur à la radio en 1975, est en train de défendre la philosophie au cours et dans le contexte d'une réforme de l'enseignement de la philosophie. Alors, il y a une résonance avec notre actualité en 2021 et ce premier nouveau bac, qui est lui-même déjà malmené par les conditions sanitaires particulières de cette année. Mais on va écouter la façon dont la voix du philosophe ici vient vraiment incarner aussi une revendication, et notamment la place de la philosophie elle-même. Et on entend à la radio Jean Kelevitch en 1975.
Qui doit se recroqueviller sur elle-même, de façon à n'être qu'une technique, qu'elle, précisément, elle n'est pas une technique.
Alors pardon, j'ai mis l'enregistrement un tout petit peu trop tard, je remonte simplement.
C'est la vie de la radio, quoi.
Voilà, tout à fait. Alors, je remonte exactement au bon timing. Et c'est parti.
Les gouvernements autoritaires ne sont pas très au clair avec ces problèmes. Tantôt, ils considèrent que la philosophie est nuisible, ou les humanités, tantôt, au contraire, qu'elles servent leurs intérêts. Je me rappelle que mon père me disait cela, en Russie, au temps du Tsar, alternativement, les ministres de l'instruction publique supprimaient les humanités ou les rétablissaient. Et supprimaient parce que les humanités parlent de la République romaine, enfin, éveillent des concepts éthiques dont le Tsar s'accommodait mal, et quelquefois, au contraire, les rétablissent comme étant réactionnaires. Donc, ils ne sont pas très, très décidés sur ce point. Et pour la philosophie, c'est un peu la même chose, je pense. C'est un peu équivoque. Alors, qu'est-ce qu'on nous offre en pâture avec cette réforme? Eh bien, on nous offre, c'est très habilement calculé, à mon avis, et calculé de manière à rendre la philosophie complètement inoffensive. D'abord, on nous fait un cadeau empoisonné, un cadeau qui ressemble à un cadeau, c'est-à-dire la philosophie est en fait réservée à l'enseignement supérieur. La terminale est une option optionnelle, comme on dit dans le langage inimitable, les ministères est une option, et à part ça, dans l'enseignement secondaire, il y aura trois misérables heures en première, c'est-à-dire moi pour les sciences économiques ou pour je ne sais plus pourquoi, j'ai autant que pour le dessin d'imitation et l'éducation physique. Et le fait qu'elle est ainsi une spécialité parmi d'autres, à laquelle on consacre 3 heures par semaine, la rend complètement inefficace. Et c'est évidemment le but recherché. Le but est donc finalement de supprimer le message qu'elle apporte aux jeunes gens, et le message auquel ils décident de supprimer la communication entre les uns et les autres, et c'est assez machiavélique d'ailleurs. Elle devient une spécialité, une technique, ce que justement elle n'est pas.
Alors, on entend ici l'engagement de Jean Kelevitch pour définir et défendre l'enseignement de la philosophie. On peut retrouver tout à fait des arguments qui sont propres à nos réformes aujourd'hui d'ailleurs, et qui vient marquer encore le fait que la philosophie et les philosophes à la radio sont dans un engagement propre à leur époque. Alors, parce que le temps nous presse et parce qu'on ne pourra pas dérouler beaucoup plus loin cette question du rapport et de la relation entre la radio et la philosophie, j'aimerais au moins vous dire et vous faire remarquer ce que vous avez peut-être vous-même remarqué, c'est aujourd'hui l'intérêt croissant pour la philosophie sonore, c'est-à-dire les livres audio, mais aussi les podcasts et aussi les émissions et les créneaux sur nos radios locales et associatives, mais aussi sur les médias nationaux, la façon dont la philosophie a gagné ces 20-30 dernières années des créneaux de chroniques, d'émissions entières hein, qui invitent l'auditeur a cheminé. Vous entendrez peut-être la référence à l'émission de France Culture chaque matin, Les chemins de la philosophie. Et j'aimerais terminer pour vous montrer et préciser avec vous peut-être ce que peut être ce chemin là de la philosophie à la radio. On est dans une émission qui s'appelle ici l'oreille. On est donc en train de faire appel plus que jamais ici à la sensibilité et à l'écoute de la voix, hein, des voix qui nous portent des mots, des thèmes et des sensibilités parfois même poétiques. Et la philosophie n'échappe pas et n'a pas échappé dans son histoire à cette question de la voix, de la lecture, mais aussi de la rêverie à la radio. Et pour terminer, je vais vous passer un tout petit extrait de Gaston Bachelard qui, justement, en 1949, a eu le loisir de choisir la radio comme un moyen de rêverie. Il proposait de guérir l'insomnie au moyen de la rêverie suscitée par la radio et il cherchait comment il pouvait radiodiffuser ces principes de la rêverie. Et donc, cela a donné des extraits sonores. Alors, quelques secondes pour écouter la voix de Bachelard avant de conclure.
Nous connaissons tous ces fragments d'histoire personnelle qui, vécus dans le jour, viennent se reconstituer dans la nuit. Et nous savons aussi que dans les heures les plus claires de notre vie diurne, il suffit d'un peu de solitude pour que nous tombions dans une rêverie qui rejoint les songes de la nuit.
Alors on entend la voix chevrotante et puissante de Bachelard. Et je terminerai simplement en vous disant que la philosophie à la radio peut aussi être envisagée, hein, à l'image de la proposition des textes même de Bachelard, comme une forme de poésie déclamée. Hein, une poésie qu'il disait, je le cite, « lue en silence, sous la dépendance de cette économie primitive des souffles. Les types imaginaires les plus divers, qu'ils appartiennent à l'air, à l'eau, au feu, à la terre, dès qu'ils passent de la rêverie au poème, viennent participer à une imagination aérienne par une sorte de nécessité instrumentale. L'homme est un tuyau sonore. » C'était un extrait de « L'air et les songes » de Gaston Bachelard, sur lequel il a justement puisé et approfondi ses rêveries à la radio. Merci à vous.
Merci beaucoup, Émilie. Merci de nous avoir fait entendre ces voix de philosophes et toutes ces pistes et idées. Malheureusement, on n'a pas le temps de discuter plus en détail, mais c'était un vrai plaisir et un très bel hommage à la radiophonie. On peut retrouver cette chronique en podcast sur le site de Radio G, à la page de Croque Philo, tout simplement. Et on te retrouve dans 2 semaines pour la prochaine et dernière de Croque Philo. Waouh.
Tout à fait, la dernière de la saison.
Oui. Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute de cette émission. Les podcasts sont en ligne sur le site de Radio Campus Angers, à la page du Pédalo. Vous avez une page ?
Oui, on a une page, oui, tout à fait.
Super. Et sur le site de Radio G, à la page de l'Oreille Curieuse. Merci beaucoup Thibaut de m'avoir accompagné dans cette émission.
Merci de m'avoir accueilli, Emily, c'est toujours chouette.
Et un très grand merci à l'équipe de Radio Campus qui s'occupe de la liaison technique des personnes de l'ombre. Vraiment, merci. C'est très, très, très gentil. On continue de fêter la radio toute la semaine. Vous avez le programme sur le site fetedelaradio.com. Il y aura des émissions en commun entre nos deux antennes, Bamboo Station et Planète Reggae, ainsi que Funkadelica et le Coureur de Funk. À 19h dans 20 secondes, vous allez retrouver ça dégouline dans le cornet. C'est quoi votre programme, Thibaut ?
Nous, c'est l'artichaut de Gwen Froger en compagnie de Ronan Pichavant du Festival d'Anjou.
Bon, bah, on se laisse sur ces excellentes nouvelles. Merci encore. Bonne soirée. À très vite.